toutes et à tous, vous êtes bien à l'antenne pardon, du Mix des Cultures. Il est 17h, c'est l'heure de votre Blabla Mix, bien sûr. Vous nous écoutez depuis le 99.1 sur Radio HDR, le 102.4 et le 95.9 sur Principe Actif ou sur radiohdr.net ou sur le site de nos amis de Principe Actif partout dans le monde. 17h donc, l'heure du Blabla Mix. Je vous l'ai dit, le Blabla Mix, eh bien, ça commence toujours par un agenda, un superbe agenda de qualité supérieure, préparé ce soir par nos amis les stagiaires, Madame Anna et Monsieur Yanis, hein, c'est bien ça, et non, ouais, pas Yacine. Bonsoir, chers amis stagiaires.
Bonsoir.
Comment ça va ce soir?
Ouais, bah ça écoute, va, ça va, on passe un bon stage de 3ème, donc tout va bien.
Ça va, vous éclatez bien, vous aimez bien votre stage?
Ouais, super, super.
Super, bah nous on aime bien vous avoir. Quelqu'un qui n'est plus un stagiaire depuis un petit moment et qui est là tout de même, qui vient nous tenir compagnie avec sa sagesse habituelle, Monsieur Ousmane Diop. Bonsoir, Monsieur Ousmane Diop.
Bonsoir, Damien.
Comment ça va ce soir, Monsieur Ousmane Diop?
Ça va la forme, ça va la forme. Et puis, peut-être que tu veux savoir de quoi j'ai travaillé.
Eh bien, je veux bien que tu nous parles sur
bien
quoi tu as
travaillé. Bien sûr, je vais vous parler, bien sûr, de parole d'habitant qui est assurée par l'école Jean-Philippe Ramon et surtout Madame Meshrout. Donc voilà, et ses élèves sont partis demander aux habitants de Rouen. Donc, ils ont posé quelques questions concernant l'écologie, la planète, vous avez compris. Donc voilà, vous saurez ça vers 17h15. Restez à l'écoute.
Super, super. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, chers habitants qui habitaient non loin, il y a une émeute de femmes devant nos locaux depuis une demi-heure, puisque nous avons été rejoints par une voix connue, Monsieur Guillaume. Bonsoir, Monsieur Guillaume.
Bonsoir, Damien. Bonsoir à tous. Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien. Et toi, Monsieur Guillaume?
Super, avec une intro pareille, que
oui.
Dire de plus,
Monsieur quoi. Guillaume qui a été stagiaire ici, qui aujourd'hui est service civique à Unicité, qui n'est pas venu seul, puisqu'il est également venu avec Mehdi, Baptiste et Monsieur Gabriel également, que vous connaissez aussi, chers auditeurs, parce qu'il a également été stagiaire ici. On en garde un très bon souvenir. Donc ils viennent nous parler de rêves et réalise, et donc Monsieur Baptiste va nous faire le plaisir de nous partager donc son expérience de service civique et notamment son projet Les Oreilles qui Braillent, c'est bien ça?
Exactement.
Super, bon, on retrouvera ça également tout à l'heure. Maintenant qu'on a présenté tout le monde, on va pouvoir parler de tout un tas d'autres choses dont on s'est occupé, donc emploi, conseil, formation notamment. On va filer là-dessus très rapidement avec les actus de la Cité des Métiers, et bien sûr, j'oublie de le dire, mais ces messieurs d'Unicité viennent dans le cadre aussi de emploi, conseil et formation. Et puis on retrouvera éventuellement, si on est chaud et si on a le temps, une petite chronique sur les sorties ciné. Et puis de toute façon, on retrouvera également une interview de Monsieur Vincent Raymond, délégué ministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. J'ai mon petit pense-bête à ma gauche pour me rappeler donc que nous avons croisé la 3ème conférence régionale des acteurs à Rouen. Qu'est-ce que je raconte? Pas toujours facile les intros. En même temps, si le gouvernement français voulait bien choisir des noms et des titres un petit peu plus simples à lire, eh bien on se galérerait moins. En tout cas, il nous parle de sa mission en tant donc que, je reprends mon petit pense-bête, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. On retrouvera ça tout à l'heure. Et puis en attendant, on va retrouver de la musique. On va commencer avec Mannequins et Fall Down sur le Mix des Cultures.
The kind of that sticks a knife deep in your back and pulls it all the way out. A lie, a failing thing to wheel and drive into the line and there are curious signs above the ground that you're serious. Dive, I thought you'd pay just a little bit smart. You're not around as I'm driving past your house. No, you're not around, but I'm thinking otherwise. Perhaps a change of the wind or the morning routine. Magnificent screens of magnesia. Fills the blood for another. Sweet beyond understanding. So until the car stops, she can let it go. The gold is getting out of control. So only then she was at the end of it. Red 12 fires on her head. A classic drug to extinguish a record. Bad at bad time. I fall down, still torn. I fall down, I jump that train for you. I fall down, it's so strange. A demon, I'm surely a feeling. Still torn, still torn, fall down. I miss that train for you. I fall down,
17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et vous devez vous demander, Damien, pourquoi les Mannequins, alors que tu es notoirement connu pour être incapable de prononcer leur nom ? Eh bien, c'est très simple, parce que l'ami Anna a des actus de Mannequins à vous annoncer qui arrivent très bientôt, l'ami Anna.
Exactement. Au 106, les Mannequins vont chanter le 30 avril. Leur premier véritable album, Body Negative, sort le 30 août avec un long format de 12 titres. Les prix vont de 9,50€ à 18,50€. Ils auront comme première partie The Psychotic Monks, qui sont un groupe de 4 personnes se révoltant à travers la musique, et Bungalow Depression, qui s'inspire d'un court-métrage de Grayson Perry.
Un court-métrage de Grayson Perry, bien écoute, merci beaucoup. Chère Anna, je sais que tu es également, tu t'es beaucoup intéressée à un festival médiéval, je crois.
Oui, le festival Normania, qui revient pour la quatrième fois au Parc Expo de Rouen du 15 au 16 février, de 10h à 22h et de 10h à 18h le dimanche. Pour les plus curieux, il y aura des artisans, des marchands, des associations, des compagnies, des maisons d'édition et des auteurs. Un concours de costumes aura lieu, comme l'année dernière, le dimanche. Beaucoup de lots sont à gagner. Il y aura différentes animations sur le sujet de la piraterie, comme des maquillages, des contes, des chants et des danses. Trois artistes seront présents samedi soir dans le hall 4, tels que Dayazel, Merwen et Barbarorum. Les tarifs sont 4€ pour les visiteurs costumés, les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap ou en recherche d'emploi. 7€ tarif plein ou 6€ en e-billet et 10€ pour un pass de 2 jours.
Merci à toi, l'ami Anna, et je le vois, il était stressé toute la journée, mais là je vois le feu dans ses yeux. L'ami Yanis qui vous a prévu des actus footballistiques, rugbyistiques, sportives en fait.
C'est ça. Donc je vais vous parler de l'actu sportif à Évreux. Donc hier dans la rubrique sport, nous avons parlé des différents résultats des équipes rouennaises. Mais aujourd'hui, nous allons parler de nos amis d'Évreux. Et commençons par le football. Samedi après-midi, Évreux a accueilli Alençon sur sa pelouse et le match s'est terminé par un match nul un partout. Le Évreux FC se classe deuxième de sa poule 1 de National 3 et envisage très sérieusement la montée en National 2 où évolue actuellement le FC Rouen qui envisage lui de monter en National 1. Donc maintenant je vais vous parler de basketball. Maintenant, parlons de basketball. Malgré un premier quart-temps compliqué, Évreux a bien failli réaliser une excellente opération sur le parquet de Fos-sur-Mer, vendredi 7 février. Malheureusement, les Normands, qui menaient de deux longueurs à 130 secondes de la fin, ont craqué dans le money time. Dans le match qui suivit, une défaite serrée sur le score de 73 à 70 en faveur de Fos-sur-Mer. Donc, Évreux se trouve seul 16e du classement de Pro B, à la limite de la zone relégable, avec une victoire de retard sur son adversaire du soir, Fos-sur-Mer.
Merci à toi, l'ami Yanis. On espère que nos amis évreuxiens vont réussir à remonter la pente. On n'en a aucun doute.
On est avec eux.
Exactement. Bah on est tous normands, après tout. On se tient la main sur le cœur pour vous, chers camarades évreuxiens. Et puis, puisqu'on parle de gens en souffrance, eh bien parlons un petit peu de l'université. Dans le cadre de la chronique emploi, conseil, formation, avant de retrouver nos amis d'Unicité, eh bien figurez-vous que demain, il y aura la journée porte ouverte de l'Université de Rouen. Vous pourrez participer à des cours de DUT, de licence, de PACES et d'ingénieur à l'ESITEC ou du DUPAC. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous pourrez certainement assister à des cours du DUPAC. Donc, comment faire pour avoir des infos ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur le site de la Cité des Métiers, citedesmetiersnormandie.fr. Vous allez retrouver ça. Vous pouvez télécharger le guide de la journée porte ouverte du campus de l'Université de Rouen. À vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas. En tout cas, dans tous les cas, ça peut être intéressant. Mais croyez-moi, ça peut être une sacrée expérience. Ousmane, tu as envie d'aller à l'Université de Rouen ?
Bah, justement, ce soir, j'y vais là-bas. Parce qu'il y a la pièce de théâtre Inconsolable qui se déroule là-bas. Et bon, voilà, j'invite aux auditeurs d'aller faire un petit tour là-bas, d'aller rencontrer le groupe Chien Dent, donc voilà, qui ils ont créé et travaillé sur la mise en scène et tout ça. Donc voilà, ça joue là-bas ce soir dès 20h.
Un spectacle qui s'appelle Inconsolable à l'Université de Rouen, et bien il y trouve toute sa place, bien sûr. Et puis sinon, si l'université ne vous intéresse pas, pourquoi je ne ferai pas de commentaires supplémentaires, je ne veux pas recevoir de coups de fils énervés, je les laisse à la fille du vendredi, bien sûr. Alors, Alors sinon, trêve de plaisanterie sur nos amis de l'université de Rouen. Si vous ne vous intéressez pas forcément à l'université, vous avez plutôt envie d'aller trouver du travail et de faire un petit peu d'argent, mais ça vous inquiète, les entretiens d'embauche, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment ça se passe, eh bien la Cité des métiers est là pour vous. C'est également demain de 9h30 à 11h30 des simulations d'entretien d'embauche, avec d'abord un atelier avec une approche très théorique qui vous expliquera ce qu'on attendra de vous dans un entretien d'embauche, et une deuxième partie avec des simulations d'entretien entre les participants. C'est une sacrée expérience à vivre, je pense, ça doit être très intéressant. En tout cas, ça peut vous permettre d'aborder ce passage stressant de la vie d'une personne, peut-être avec plus d'assurance. Alors néanmoins, par contre, il faut vous inscrire, et pour ça, vous appelez le 02 32 18 82 80, le 02 32 18 82 80, et évidemment, pour plus d'informations, vous allez sur le site de la Cité des métiers, citedesmetiersnormandie.fr. Maintenant, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu de musique avant de retrouver ces gens Unicité, ces gens, ces amis de Unicité? On va s'écouter un petit morceau bien normand, bien de chez nous, une référence à Guy de Maupassant, La Maison Tellier, avec À la petite semaine.
Depuis ma quarantaine, je suis son obligé. Si les affaires reprennent, nous devrions palper. Toute une vie à la traîne se verrait relancée. Alors, je tuerais tout le monde et je m'en irais. Sans intérêt. Alors, je tuerais tout le monde et je m'en irais. Alors, mon cœur s'essoufflerait. Kaiser s'est fait saucer. Quelques cousins baveurs aura tout fait foirer. À l'abri du soleil, j'attends sans illusion que ces messieurs débarquent et me traînent au donjon. Tant pis, je tuerai tout le monde et je m'en irai dehors, leur vie sans intérêt.
Sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Un morceau très joyeux de La Maison Tellier. Eh bien, nous, on ne va pas tuer Jean, et puis on va rester là. On va parler avec l'ami Guillaume et l'ami Baptiste, donc du service civique et du projet de l'ami Baptiste, Les Oreilles qui Braillent. C'est bien ça, Guillaume?
Mais exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, on s'est dit que c'était important d'en parler. Moi, déjà, je dois dire que je suis très ému d'être là aujourd'hui particulièrement, parce que l'année dernière, presque jour pour jour, j'étais stagiaire à la place d'Anna Yanis, et puis je parlais de sport, de Normania, de toutes ces choses-là. C'est un vrai plaisir. Et aujourd'hui, je suis service civique, comme tu as pu l'être, Damien, pour la radio, toi, pour le coup. Moi je suis en service civique à Unicité, donc l'association au sein de laquelle Baptiste est également.
Bonsoir.
Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Baptiste.
Écoute, est-ce que premièrement tu peux nous parler un petit peu de ce qu'est le service civique pour toi et de l'association Unicité?
Alors le service civique pour moi c'est un engagement citoyen qui consiste à pouvoir aider en fait dans la société, dans le milieu généralement associatif. Voilà, c'est donner de son temps pour aider la société à s'améliorer, à aider des gens dans le besoin, qui voilà. Et pour l'association Rêve et Réalise, l'association pendant une cité dans laquelle nous sommes dans le programme Rêve et Réalise, donc une cité, c'est une association nationale qui a différentes antennes, dont une à Rouen. Oui. Et c'est une asso qui est spécialisée dans le service civique et les programmes qu'elle propose, les missions qu'elle propose, voilà, sont toutes d'ordre social ou environnemental. L'idée, c'est d'améliorer le bien-vivre et le bien-être en France.
Alors effectivement, Unicité, une des spécificités, c'est qu'elle propose plusieurs missions bien distinctes. Donc des missions qui sont un petit peu toutes faites, sans vouloir retirer aucun mérite à ces missions-là, qui ont un impact social évident. Et puis donc, toi comme moi, nous sommes au sein d'un programme bien particulier qui s'appelle Rêve et Réalise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors Rêve et Réalise, du coup, c'est un programme dans lequel les volontaires sont amenés à travailler soit en équipe, soit en solo, sur un projet en fait, qu'ils vont construire de A à Z, un projet qui a un impact social ou environnemental. Et donc voilà pour l'idée. On est soit engagé pour 6 mois ou 8 mois. Suivant l'organisation de chaque unicité, suivant les villes, les programmes Rêve et Réalise. Et voilà, on a ce temps imparti pour créer notre projet social et solidaire. C'est aussi un moyen de tester une idée, voilà, tester un concept, une façon d'aider les gens, une façon de, voilà, si on a une idée sur l'environnement, pour améliorer toujours le bien-être et le bien-vivre des citoyens.
Donc Rêve et Réalise, c'est un espèce de petit incubateur à projets sociaux finalement, où on voit les gens arriver avec leurs idées qu'ils ont envie de tester sur le terrain et finalement on leur laisse 6 à 8 mois pour mettre ça en place. Donc évidemment avec des partenariats comme je peux le faire avec la radio des Hauts-de-Rouen en l'occurrence. Toi Baptiste, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet à toi? Et voilà, on va commencer par là tout simplement.
Ok, donc le projet que je mène donc, s'appelle Les oreilles qui braillent. Donc braille, ma référence à l'écriture braille pour les personnes aveugles.
Alors là, je vois des yeux, excuse-moi de bouger, des gens qui viennent de comprendre le jeu de mots et tout ça. Donc ouais, si tu peux nous développer un peu ça.
En fait, moi, ce projet-là vient d'une passion que j'ai pour l'audio en manière générale, avant que je m'engage à Unicité. Et en fait, je me passionne pour la fiction audio et l'audiodescription, qui sont deux choses à différencier. Mais dans mon projet, en fait, je me suis rendu compte que la fiction audio était assez méconnue et qui plus est des publics qui ont un handicap visuel. Et donc je trouvais ça pertinent de leur faire rencontrer ce média, leur faire si possible essayer, c'est-à-dire créer eux-mêmes des histoires sonores, des fictions audio. Et tout du moins les sensibiliser à ce média. Et également en parallèle, j'aimerais les sensibiliser aussi à ce qu'on appelle l'audiodescription, c'est-à-dire un outil qui permet de rajouter une voix off permettant de décrire tout ce qui va être visuel dans une œuvre, qu'elle soit cinématographique, théâtrale, de danse ou en exposition. Et donc l'audiodescription, voilà, c'est une voix off qu'on rajoute. Moi personnellement, c'est plus dans le cinéma que ça m'intéresse, voilà, pour aider les personnes qui ont un handicap visuel à pouvoir suivre une œuvre, et la comprendre, voilà, même si elles ne peuvent pas tout voir de cette œuvre.
Donc tu es parti de ta passion, de ton intérêt pour finalement l'audio, la fiction audio, l'audiodescription, pour en arriver à te dire ça peut être utile à certaines personnes. Comment tu t'es rendu compte qu'il y avait un manque, un besoin à ce niveau-là?
Alors, en discutant déjà avec des associations comme l'association Valentin Ahuy, dont une antenne est basée place Saint-Marc, également les Auxiliaires des Aveugles, qui sont basés place de la Haute-Vieille-Tour, également aussi en discutant avec des personnes déficientes visuelles, voilà, parce que, par exemple, on me disait bah, il n'y avait pas assez d'offres de films audio-décrits, ou ne serait-ce que actuellement sur Rouen, il n'y a aucune salle de cinéma qui propose des séances de films audio-décrits. Pour rappel, normalement en 2015, la loi a été passée pour faire en sorte qu'en France, en 2015, tous les cinémas devaient être équipés de systèmes de diffusion de l'écrit.
D'accord, ok. Et tout à l'heure, Guillaume, il disait que Rêve et Réalise, c'est une espèce d'incubateur, donc voilà, qui permet au projet de germer. Alors, comment ton projet, comment t'as... Est-ce que t'as passé des concours, des tests? Comment t'es arrivé à intégrer ce projet qui s'appelle Rêve et Réalise?
Alors, le service civique, ce qui est particulier avec ça, c'est que on a certes des entretiens pour être engagé par la structure qui nous accueille, mais il n'y a pas de CV, pas de lettre de motivation à faire. En fait, ce n'est pas un travail salarié ou même un stage. On est vraiment sélectionné sur notre motivation. Donc il n'y avait pas vraiment de test à proprement parler. On a été effectivement, forcément, on a été évalué par nos coordinateurs, mais ça reste quelque chose de très subjectif et c'est vraiment notre motivation qui faisait qu'on était engagé.
Du coup, des jeunes qui nous écoutent d'ici à Rouen et Évreux, donc voilà, s'ils ont cette envie de participer à ce projet Rêve et Réalise et qu'ils ont des petites idées, comme Guillaume vient de l'a dit tout à l'heure, soit pour les tester, soit pour le voir comment ça marche, est-ce qu'il y a des critères? Il n'y a pas besoin de critères?
Alors du coup, effectivement, il n'y a pas besoin de critères. L'idée en plus à Unicité, c'est qu'ils essayent vraiment de brasser un maximum de personnes avec des origines différentes. Nous, dans notre promotion, on n'habite pas tous à Rouen, il y en a qui habitent ailleurs. Enfin, ça reste près de Rouen, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes qui viennent de quartiers différents et dans l'agglomération rouennaise qui viennent de différents endroits quoi, dans l'agglomération.
D'accord, ok.
Oui, on l'observe totalement dans notre groupe, c'est ça, quand on parlait de cette idée d'incubateur. Ce qui est intéressant, c'est justement cette mixité culturelle, cette diversité qui est au sein du groupe. Et on a vraiment de tout. Alors évidemment, ça va le service civique de 16 à 25 ans. On peut étendre ça jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Mais ouais, dans notre groupe, il y a de tous les horizons, de tous les âges, une parité presque exemplaire. Et à ce niveau-là, c'est vrai que forcément, ça stimule parce que comme on travaille tous en groupe autour des projets des uns et des autres, voilà, on est 24 dans une pièce à essayer de réfléchir à tiens, comment tu pourrais mettre ça en place sur le terrain. Venez, on fait un petit brainstorming, on réfléchit tous ensemble. C'est extrêmement stimulant et puis je pense que c'est très productif en plus pour les projets des uns et des autres.
Donc, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, le projet, là, donc, comment ça s'appelle?
Les
oreilles qui braillent. Et ça en est où, ce projet, actuellement? C'est viable? C'est en cours? Et puis...
Alors, en fait, donc, il est actuellement en cours de réalisation, dans le sens où j'ai mis en place un partenariat avec le Centre Normandie-Lorraine, qui est un centre d'accueil pour jeunes déficients visuels. Et donc là, avec eux, tous les mardis après-midi, donc là, aujourd'hui, j'y étais. C'est pour ça que je suis un peu en retard, désolé. en fait, du coup, on crée ensemble une histoire audio. Donc les élèves, voilà, avec eux, on crée l'histoire. Et puis là, aujourd'hui, on est en enregistrement de leur voix. Et puis après, on va mettre un habillage sonore, des bruitages, des musiques si besoin. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de créer une histoire audio par les enfants et avec les enfants.
Super. Et où est-ce qu'on peut trouver ces histoires audio une fois finies?
Alors, je ne sais pas si j'aurai le droit de les diffuser, j'espère. Il faudra que je vois avec le Centre Normandie-Lorraine. Les enfants, eux, ils en ont un exemplaire pour présenter à leur famille. Et même tout le centre aussi, je pense qu'aura eu vent de ça. Faut valoriser quand même la chose. Et puis même, ça met en valeur les élèves. Après, je ne sais pas si moi, je pourrais diffuser ça ailleurs, j'espère.
D'accord, ok. On sait que le service civique, c'est un temps donné. Et une fois que ton contrat sera fini, est-ce que tu seras toujours suivi par Unicité ou ça sera complètement différent?
Je ne sais pas si je serai encore suivi par Unicité. Ça serait un peu flippant.
Je suis désolé.
Non, après, moi, j'aime l'audio, j'aime la fiction audio, j'aime réaliser, enregistrer, faire des bruitages, j'adore ça. Donc, je vais continuer là-dedans. Après, si peut-être que je serai amené à filer des coups de main à Unicité, je ne sais pas. Mais...
Est-ce que tu as l'espoir, avant la fin de ton contrat de service civique, que ce projet voit le jour?
Alors du coup, moi, mon projet, il n'y a pas vraiment de fin. Ni vraiment de commencement, donc en fait il a déjà vu le jour il y a longtemps et en fait il est toujours, il n'y a pas vraiment de forme de, je ne peux pas me dire à un moment donné là c'est bon le projet est réalisé.
D'accord,
en fait
okay.
C'est toujours en formation et enfin, tant que je parle de fiction audio et que les gens apprennent ce que c'est et qu'ils en font et bah du coup c'est toujours en cours. Et
j'imagine que le son donc que tu travailles, tu dois quand même avoir des connaissances en termes d'enregistrement, prendre le son, le travailler, enfin je sais pas, tout le côté technique du son. Et quel a été ton parcours?
En fait j'ai fait une licence musique et métier du son à Marne-la-Vallée.
Ah.
Et voilà.
Ça t'aide dans...
Oui, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça en plus aussi de stage et puis de ma propre... ma façon de... J'ai appris aussi beaucoup de choses en faisant avec des copains.
Ce qui n'est pas indispensable, hein, d'ailleurs, parce qu'on le rappelle, effectivement, le service civique dans lequel on est, il n'y a pas de diplôme requis hein, pour mettre ça en place.
Pour intégrer, mais j'imagine, pour ça. Conduire un projet, tu as quand même...
Ça peut être une aide d'avoir des appuis derrière, ouais, quand même, c'est effectivement ça. Et moi, je voulais te demander si tu pensais que, par la suite, tu pourrais mettre en place peut-être un système associatif basé sur cet essai là que tu es en train de faire sur le terrain finalement. Est-ce que tu penses te projeter en association, en coopérative? Est-ce que tu as des idées de développement par la suite?
Initialement, c'était ça le projet avant d'intégrer une cité. Je voulais créer une association en fait de créateurs de fiction audio. Donc je voulais réunir réalisateurs, bruiteurs, ingénieurs du son, musiciens, comédiens. Moi, j'aimerais toujours la créer, cet asso, mais pour l'instant, c'est plus trop dans mes priorités. Mais effectivement, ouais, c'est quelque chose qui me plairait de créer une sorte de... Ouais, de je sais pas comment on appelle ça, mais...
Structure.
Structure, ouais. Ouais. Voilà, pour promouvoir la fiction audio, en réaliser. Et puis également aussi, maintenant que j'ai, dans mon service civique, j'ai côtoyé des publics déficients visuels, je me rends compte que c'est important aussi d'aller vers eux et de les intégrer, en fait, par ce média-là. Parce que c'est un média, en fait, actuellement, les outils numériques nous leur permettent de pouvoir être autonomes sur la création de fiction audio. Et je trouve ça important de les sensibiliser à ça s'ils peuvent, s'ils le souhaitent, et les intégrer aussi dans cet art, dans ce média. Puis également aussi toujours promouvoir l'audio description, qui est une discipline qui me plaît beaucoup, et puis qui, je trouve, qui même pour les personnes comme nous qui sommes voyants, et pourtant écouter un film audio description, je trouve que c'est une expérience qui est vraiment enrichissante.
Est-ce que tu as un exemple, parce que depuis tout à l'heure donc tu nous parles de audio, comment ça s'appelle, fiction audio. Alors qu'est-ce que ça serait, quoi? Parce que du coup, là, j'ai une vague idée, mais concrètement, ça sonnerait quoi?
Ok. Alors, une fiction audio, en fait, c'est un terme générique qui englobe différentes façons de concevoir une histoire sonore. Je pense que tu connais ce que c'est un livre audio. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui prend un livre et qui le lit et qui s'enregistre en lisant le livre. Mm-hmm. Ça, c'est la version la plus simple. La version la plus complexe, ça va être ce qu'on appelle du coup une fiction audio. On appelle ça aussi parfois dramatique radiophonique ou saga MP3 si on est sur Internet. En fait, l'idée, on va réunir différents comédiens. Ils vont chacun interpréter leur personnage. Et puis on va rajouter ça avec un habillage sonore, des ambiances musicales. Voilà, c'est un peu comme du cinéma mais sans les images.
D'accord, ok. Là, si là c'est plus clair.
Ça se faisait beaucoup dans la radio il y a très très longtemps, mon cher Ousmane.
Je pense que vous connaissez tous les Mythes du peuple de François Pérusse.
Par exemple.
Oui. Mais oui.
C'en est en tout cas.
Il y a les Contes de Monte Cristo sur France Culture.
Ah, alors du coup. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors du coup, il me semble, j'ai pas écouté, mais je pense que c'est plus de la lecture audio pour le coup. Je pense pas qu'il y a plusieurs comédiens qui jouent les différents personnages. C'est possible, mais j'ai pas écouté.
Là, je saurais pas te le dire, mais je sais que l'habillage sonore, c'est sûr. On entend les pas des chevaux, ouais, on entend les charrettes, ouais. On entend les bruits des passants ou des poules. Ça dépend du personnage où il est, voilà. Donc,
ok, ouais, carrément, c'est de la fiction audio.
Bah, ouais, merci beaucoup, messieurs.
J'allais te demander, Baptiste, au passage, est-ce que tu as, peut-être une œuvre de fiction audio qui te touche particulièrement en ce moment, quelque chose à recommander aux gens s'ils veulent s'initier, peut-être, à tout ça?
Ouais, alors j'en ai deux. Bah, sur France Culture, je recommande la série Hasta Dente. Donc c'est une série audio en 10 épisodes, je crois. Et sur le site audiodramax.com, je recommande la série Poséidon. Enfin, c'est une série de science-fiction où on suit un scientifique bloqué dans un sous-marin, dans les abysses.
Waouh, ok.
Ce serait limite passionnant qu'on te reçoive rien que pour parler de fiction audio, mon cher Baptiste. En tout cas, merci à toi pour ce projet. Merci à toi, cher Guillaume, pour servir d'incubateur à ces projets, également d'intervieweur de charme et de charisme à notre antenne. Malheureusement, une fois de temps en temps, il faut qu'on mette un petit morceau de musique sur notre antenne. Donc, je vous propose qu'on s'écoute True Live avec Raise Up sur le mix des cultures. We're gonna make it.
little know-it-all gets kissed. My life in a skiff, something to believe me on the drugs and bullshit that is. In every damn home, reality TV, and the now we live. A celebration of the breakthrough. He realized he could read and think for himself. And when I knelt and begged God for help, I realized I've been given hands, time to build. It's an empire, it's an orchestra. What I orchestrate, somebody changed my fate. And I question my fate and my faith for my time in the grave. Raise up. When he stood by me, thank you. Now I grew up and I moved. The best rappers, we paid dues. When your bastards hit the free booze, I learned to make music to work through my blues. And the critics don't get it. This is music. I told y'all I am joining the new movement. Shirts off, hands up, wave around, man. This is how we do it. Worst of your days, mate, we gon' get you through them. From rising oceans to personal blues, and in a country where tall poppies are locked, in an industry we act till we knock. I ain't no monkey, I'm proud of what I got, and I won't apologize if I don't fit the plot. I got educated on the shape of it, public school, self-belief, paid for it in time. Now I pay for it with my pen and paper, beats, songs and rhymes.
Yeah.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Je fais peur à tous les collègues en leur faisant croire que je vais rouvrir leur micro, mais en fait non, puisqu'on parle tout de suite avec l'interview de monsieur Vincent Raymond, donc délégué interministériel. Ah, mais Ousmane me fait signe, j'oublie sa chronique, mon pauvre Ousmane.
Mais oui. bien sûr, parce que la directrice de Jean-Philippe Raymond, je ne veux pas la rencontrer demain matin parce que j'aurai des ennuis. Ah non, je déconne.
Je suis indigne, mon cher Ousmane, je suis indigne.
Bien sûr, c'est la chronique... de paroles d'habitants, bien sûr, qui s'est intéressé le projet, donc projet de Médiacité, avec l'école Jean-Philippe Raymond et surtout Madame Meschroute, donc voilà, et ses élèves du CM1 et CM2, donc voilà, qui ont été se balader dans la rue et poser une question aux habitants. Et donc, est-ce qu'ils trient leurs déchets? Est-ce qu'ils s'intéressent à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui leur parle? Et au final, et qu'est-ce que c'est? Donc voilà, et découvrons ça.
Est-ce que vous triez chez vous?
Triez quoi?
Les déchets.
Ah, les déchets, non, pas encore. On n'a pas encore les poubelles de tri. Nous, on jette tout dans la même poubelle.
Pour recycler, pour soigner notre planète.
Vous avez raison, notre planète, elle est mal soignée, là. Il faut appeler le docteur. Bah oui, le docteur de la déchetterie, tu connais? C'est 0800. Tu connais pas le numéro? Voilà, c'est 0800, le docteur de la déchetterie. Bah c'est vrai, moi, je vous mens pas, moi. Bah c'est vrai que notre planète, elle est pas belle, hein. C'est vrai. Elle est malade un peu. Bah on va essayer de la soigner un petit peu, alors. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la soigner?
Ramasser les déchets, les recycler dans la bonne poubelle.
Écoutez, les enfants, je vous remercie beaucoup pour l'info que vous me donnez.
Que pensez-vous de tous ces déchets?
Les déchets? Quels déchets?
Bah, par terre.
Par terre, faut nettoyer.
Triez-vous vos déchets chez vous?
Moi, je ne trie pas les déchets chez moi parce qu'il y en a des travailleurs qui vont trier à ma place. Si par exemple chez moi, si je vais trier les déchets, il faut qu'une boubelle pour l'astique, pour le papier. Pour ça, il me faut 5-6 boubelles à la maison. Alors ma maison, elle est petite.
Mais non, mais dehors, vous voyez des poubelles?
Les poubelles chez nous, c'est pas pareil. Chez nous, mais le sac, jette-le dehors. Mais chez moi, je peux pas faire 5-6 poubelles. Chaque chose, je mets tout seul. Alors, il faut qu'on ramène le déchet dans l'usine. Pour comme ça, on va embaucher les gens qui vont travailler et comme ça, pour nourrir leur famille.
Pensez-vous qu'on peut soigner la planète avec tout ce déchet par terre?
Alors, il faut qu'on fasse de l'éducation pour ne plus jeter par terre, pour déjà plus de propreté, pour que le cadre soit agréable. Ensuite, si on parle des déchets plus généralement, c'est peut-être aussi ta question. Je pense que dans nos poubelles, si on trie davantage, on peut recycler une partie des déchets. Par exemple, quand on a des déchets végétaux, eh bien qu'on puisse les garder pour faire du compost, pour mettre dans le jardin. Là, au milieu des immeubles, il y a un jardin partagé. On est ravis de pouvoir mettre du compost. Le compost qui sert à alimenter les vers, qui sert à nourrir la terre et faire pousser des plantes. Voilà, donc si on respecte la nature, on se crée aussi un meilleur environnement et une meilleure nourriture.
Donc voilà, je vous rappelle que ces micro-trottoirs sont réalisés dans le cadre du projet Médiacité. Et voilà, c'était les élèves de Madame Meschroute et les classes CM1 et CM2. Voilà.
Merci à vous, chers jeunes de l'école Le Philippe Raymond, de poser des questions d'actualité. Ça fait très plaisir parce que c'est un souci, finalement, l'écologie qui anime de plus en plus la scène politique comme la scène civile. Et puisqu'on parle de politique, eh bien parlons donc de Vincent Raymond, cette fois toujours délégué interministériel, sauf si c'est passé une dinguerie pendant qu'on parlait. Donc, à la prévention et à la lutte contre la pauvreté que nous avons rencontrée lors de la 3e conférence régionale des acteurs. Il nous parle donc de ces tâches parce que c'est vrai qu'on est en droit de se demander mais qu'est-ce que c'est qu'un délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté?
On s'est rendu compte qu'il y avait un volet qui était extrêmement important, qui est celui de l'accompagnement des personnes, l'accompagnement vers l'emploi. Donc voilà, en gros, il y a deux axes forts. Si on veut sortir de la pauvreté, le meilleur moyen, c'est de s'y attaquer dès la petite enfance. Et le deuxième axe, c'est d'accompagner les personnes, à leur donner accès aux droits et les accompagner vers l'emploi. Donc ça, ce sont les deux mesures. C'est pour ça que maintenant, on a un délégué interministériel à la lutte et à la lutte contre la pauvreté. On dépasse la partie enfance et jeunes pour se consacrer à ces deux grands volets. Et donc, ce que fait mon job, en quelques mots, c'est de faire de l'interministérialité au carrefour des différents ministères qui s'occupent, parce qu'il y a les petits déjeuners à l'école, ça c'est le ministère de l'Éducation nationale, il y a des tarifs sociaux dans les cantines, ça c'est en lien avec les collectivités, il y a beaucoup de mesures qui concernent le ministère de l'Emploi, et puis beaucoup de mesures qui concernent le ministère des Affaires sociales. Donc le rôle du délégué, c'est de coordonner tout ça à l'échelle nationale, puis évidemment, sachant que la stratégie et l'action du gouvernement est portée par les ministres. Donc on a Christelle Dubos, qui est la secrétaire d'État, Agnès Buzyn, et chaque ministre dans son domaine porte ses politiques de lutte contre la pauvreté, Muriel Pénicaud sur son champ. Donc nous, on est le maillage interministériel à l'échelle nationale. Et puis le rôle du délégué, c'est aussi l'animation du réseau des hauts commissaires qui sont partout sur le terrain, qui agissent, qui sont rattachés au préfet de région, qui agissent au plus près du terrain, et qui eux sont le maillon interministériel à l'échelle de la région. En lien bien évidemment avec tous les acteurs des départements. Là non plus, ce n'est pas du surplomb. Mais on a quelque part, d'une certaine manière, un État qui descend d'un étage et qui se met au service d'une interministérialité de proximité.
Qu'est-ce qui les différencie, cette stratégie, de tout ce qui a pu se faire peut-être avant?
Le principal point, c'est que si on prend, et on s'appuie nous sur le précédent plan de lutte contre la pauvreté qui avait été porté par François Chérec, mais il y a eu un gros problème, c'est ce qu'on appelait la territorialisation. On élabore des mesures, on cherche à les territorialiser. Nous, on n'a pas appelé ça territorialisation. On se dit, c'est une stratégie, donc elle a déjà un axe qui est très fort, c'est cette dimension prévention, investissement social très en amont. Ça, on ne l'avait pas dans les autres stratégies. Et le second volet, c'est qu'on part des territoires. Tout se fait à partir des acteurs et des territoires. Cette contractualisation avec les départements, elle n'existait pas dans les précédents plans de pauvreté. Donc, c'est une nouvelle relation. On a des collectivités. Le département, aujourd'hui, c'est le chef de file de l'action sociale. C'est lui le pilote, c'est lui le boss. Et ben, on travaille avec les acteurs. L'État ne doit pas se substituer. Il doit construire une relation exigeante, parce qu'on cite des indicateurs et on regarde si on atteint nos résultats, mais respectueuse de la libre administration des collectivités territoriales. Et on part, troisième élément, donc je dirais investissement social, confiance, et puis troisième élément, un pilotage par les acteurs du territoire. Christian le disait tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est que c'est, alors même si l'État peut être présent dans ces groupes de travail, mais c'est des acteurs de la société civile qui pilotent ces groupes de travail. Donc on a un État qui se met au service d'eux, au service des collectivités, au service des acteurs, mais qui n'est pas en surplomb. C'est pas l'État en surplomb, c'est pas l'État donneur de leçons, c'est pas l'État qui fait à la place des autres. C'est l'État qui coordonne, c'est l'État qui assemble, et c'est l'État qui laisse faire et qui fait confiance. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour le coup.
On a bien compris qu'il était important que le public, les bénéficiaires, comme on a si bien dit, soient acteurs aussi de ces projets. Pourquoi ?
Parce que si on dit à une personne ce qu'elle doit faire, déjà c'est pas respectueux de cette personne, il faut prendre en compte ce qu'elle est, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, et puis deuxièmement c'est que c'est la meilleure façon de réussir son parcours. On construit pas un parcours avec quelqu'un contre son gré, donc s'il n'en est pas acteur, s'il ne le porte pas, on a 9 chances sur 10 que ça se casse la gueule. Donc il faut que la personne soit pleinement actrice de son parcours. Et c'est pas évident, parce que je vais vous prendre un seul exemple. On dit aujourd'hui l'urgence, quand quelqu'un fait sa demande de RSA en ligne, l'urgence c'est qu'il soit orienté très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, les moyens, c'est 3 mois, alors que la loi dit qu'il faut qu'en 2 mois, une personne soit orientée vers quelqu'un, vers un parcours professionnel, un parcours social. Aujourd'hui, en moyenne, les gens restent 3 mois sans être accompagnés, ce qui est source de grandes difficultés. Donc nous, on dit qu'il faut orienter en 1 mois, c'est le contrat qu'on a passé avec les départements, ils sont d'accord, ils s'y engagent. Mais en même temps, orienter quelqu'un en 1 mois, ça peut être parfois, il faut articuler ça avec le fait de prendre en compte la personne et de pouvoir l'écouter, de pouvoir dire mais quel est votre souhait, donc il faut à la fois prendre le temps, ce sont toutes les exigences contradictoires, prendre le temps d'écouter la personne, de travailler son projet avec elle, mais en même temps pas la laisser dans la nature et pouvoir l'orienter rapidement. Donc il faut concilier les deux, et c'est pour ça qu'on travaille avec les associations sur le service public de l'insertion. Typiquement, le Secours catholique a beaucoup attiré notre attention sur cette dimension-là. Le projet de la personne, partie du projet de la personne, et donc prenez le temps, allez vite, ok, mais en prenant le temps d'écouter les gens. Voilà, c'est un peu comme le TGV, il faut prendre le temps d'aller vite, quoi.
On a bien aussi ressenti que peut-être certaines institutions étaient un peu plus frigides et se dire secouez-nous un petit peu et peut-être on vous entendra.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, cette stratégie, c'est une stratégie qui est extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en place, se déployer sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on assume aussi en matière de participation, parce que l'exemple que vous évoquez, c'est quelqu'un qui disait bah oui, nous bousculez-nous sur le choc de participation. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce mot choc de participation. Dans la mission choc, alors bien évidemment, j'entends bien les associations qui disent il faut prendre le temps. Mais oui, prenons le temps, mais ça fait quand même très 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 longtemps qu'on dit qu'il faut mieux accompagner les personnes. Donc les associations sont les mieux placées, à Terre des Quarts Mondes, les CRPA connaissent pleinement ces problématiques. Mais maintenant, il faut aussi qu'on soit disruptif, mais il faut trouver les voies et moyens, les voies de passage, essayer des choses un peu différentes qui nous obligent à sortir les uns et les autres de notre confort.
On parle de quel public quand on parle de pauvreté ?
Alors, il y a plusieurs publics. Il n'y a pas qu'un public. Déjà, la pauvreté recouvre une diversité de visages. Mais si on prend une approche statistique, c'est les personnes qui sont à 60% du revenu médian. Plus ou moins. Donc, le revenu médian, aujourd'hui, a un certain montant qui partage la population en deux. Et on prend 60% de ce revenu médian. Tous ceux qui sont en dessous de 60% de ce revenu médian sont en situation de pauvreté. Ça, c'est la vision statistique. Mais il y a aussi une approche en conditions de vie, c'est-à-dire que voir ce qu'est la pauvreté, c'est aussi, donc pas, ça se mesure pas uniquement en termes monétaires, mais en conditions de vie. Si j'arrive pas à me chauffer, si j'ai telle ou telle difficulté, donc il y a une analyse aujourd'hui, il y a une façon de mesurer la pauvreté à travers 20 critères objectifs relatifs au mode de vie, aux conditions de vie. Voilà. Et puis, donc ça, ce sont les deux principales façons de mesurer la pauvreté. Et après, il y a de la très grande pauvreté, 60% du revenu médian, 50% et 40% du revenu médian, c'est une pauvreté, la pauvreté la plus concentrée, la plus forte.
Donc ça touche énormément de monde,
bien sûr.
Des millions de personnes.
Oui, à 60% de revenu médian, on est à plus de 9 millions de personnes.
Dans une zone pour nous, sur les Hauts-de-Rouen, des loyers qui augmentent, des factures qui augmentent, hein, comme tout à chacun. Mmh. Est-ce que donner de l'argent, c'est aussi simplement lutter contre la pauvreté, ou on peut mettre aussi d'autres actions en place ?
Oui. Bah c'est évidemment, il faut, on ne conteste pas la dimension monétaire. Apporter des revenus, ça permet de lutter contre la pauvreté. Typiquement, si on n'avait pas notre système de redistribution sociale, aujourd'hui, la pauvreté, elle serait 9 points au-dessus de ce qu'elle est.
Mais si on donne toujours plus d'argent, tout augmente aussi. La vie augmente aussi.
La vie, le SMIC augmente, mais tout augmente. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut réévaluer régulièrement les minima sociaux. On n'est pas dans une configuration aujourd'hui, la revalorisation des minima sociaux dépasserait celle du coût de la vie.
Est-ce que baisser les factures ou le loyer pourrait être une meilleure solution.
C'est pour ça qu'il y a des tarifs sociaux du gaz, c'est pour ça qu'il y a des chèques énergie. Donc il y a des approches complémentaires, mais je suis tout à fait d'accord. Donc lutter contre la pauvreté, c'est ne pas décrocher dans les minima sociaux, c'est avoir d'autres approches en termes de réduction de factures et de chèques, santé, énergie, ça c'est tout un volet complémentaire. Et puis lutter contre la pauvreté, c'est offrir un accompagnement vers l'emploi, puisque c'est la troisième brique, c'est plus on accompagne vers l'emploi et quelqu'un qui sort de l'emploi diminue son taux de pauvreté de manière évidente et très très claire. Et puis c'est offrir une logique de service à toutes les personnes en situation de pauvreté, l'accès aux crèches pour les enfants pauvres, c'est pour ça qu'on a un bonus mixité dans les crèches. C'est un exemple de service accessible aux enfants en situation de pauvreté. Aujourd'hui, les enfants en situation de pauvreté sont très sous-représentés dans les crèches.
Alors on rencontre aussi beaucoup de jeunes qui ont 16-17 ans.
Oui.
Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure dans la conférence, cette conférence des acteurs de lutte contre la pauvreté. Une grosse problématique sur ces tranches d'âge, 16-17 ans, 16-18 ans, où je peux sortir de mon apprentissage, où je sors de mes études, mais j'ai envie de travailler. Mmh. Sauf qu'en France, moins de 18 ans, on ne peut pas travailler.
On peut travailler à moins de 18 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans. On peut travailler à partir de 14 ans. 16-18 ans, vous avez, là où vous avez raison. Entre 16 et 18 ans.
Un contrat d'apprentissage ou un...
Ouais, non, on peut travailler aujourd'hui. On peut travailler avant 18 ans. Mais
pas comme un employé CDI, lambda.
Peut-être quelques nuances, mais grosse aujourd'hui. Mais là où vous avez raison, c'est vrai qu'on a une grosse difficulté. C'est sur la catégorie 16-18 ans, puisque jusqu'à 16 ans, on est à l'école, on a la scolarité obligatoire. Et entre 16 et 18 ans, ben, on n'a rien. Et en plus, on n'a pas accès aux minima sociaux d'une manière très claire. Donc, c'est pour ça qu'on met en place cette obligation de formation. Vous avez raison, c'est pour construire des solutions individualisées pour les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. Et pas les laisser planter seuls devant leur télé. Et les aider, les accompagner et leur trouver une solution. Voilà, et c'est la responsabilité des pouvoirs publics.
Dernier mot pour clôturer.
Eh ben, je dirais que j'étais extrêmement heureux de pouvoir venir en Normandie et avoir ce temps qui était un échange très très riche, j'ai trouvé ce matin, avec une forte participation, une mobilisation des acteurs, je trouve qu'elle est extrêmement enrichissante, intéressante. Et voilà, être délégué interministériel, c'est pas seulement être dans les rouages interministériels, c'est aussi être sur le terrain et être avec les acteurs, ceux qui font.
Dans une zone pour nous, sur les Hauts-de-Rouen, des loyers qui augmentent, des factures qui augmentent, hein, comme tout à chacun. Est-ce que donner de l'argent, c'est aussi lutter contre la pauvreté, ou on peut mettre aussi d'autres actions en place ?
Oui, bah c'est évidemment, il faut, on ne conteste pas la dimension monétaire. Apporter des revenus, ça permet de lutter contre la pauvreté. Typiquement, si on n'avait pas notre système de redistribution sociale, aujourd'hui, la pauvreté, elle serait 9 points au-dessus de ce qu'elle est.
Mais si on donne toujours plus d'argent, tout augmente aussi. La vie augmente aussi.
La vie, le SMIC augmente.
Les factures.
Tout augmente. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut réévaluer régulièrement les minima sociaux. Voilà, on n'est pas dans une configuration. Aujourd'hui, la revalorisation des minima sociaux dépasserait celle du coût de la vie.
Est-ce que baisser les factures ou le loyer pourrait être une meilleure solution?
Mais c'est pour ça qu'il y a des tarifs sociaux du gaz, c'est pour ça qu'il y a des chèques énergie. Donc il y a des approches complémentaires, mais je suis tout à fait d'accord. Donc lutter contre la pauvreté, c'est ne pas décrocher dans les minima sociaux, c'est avoir d'autres approches en termes de réduction de factures et de chèques, santé, énergie, ça c'est tout un volet complémentaire. Et puis lutter contre la pauvreté, c'est offrir un accompagnement vers l'emploi, puisque c'est la troisième brique, c'est plus on accompagne vers l'emploi et quelqu'un qui sort de l'emploi diminue son taux de pauvreté de manière évidente et très très claire. Et puis c'est offrir une logique de service à toutes les personnes en situation de pauvreté, l'accès aux crèches pour les enfants pauvres, c'est pour ça qu'on a un bonus mixité dans les crèches. C'est un exemple de service accessible aux enfants en situation de pauvreté. Aujourd'hui, les enfants en situation de pauvreté sont très sous-représentés dans les crèches.
Alors, on rencontre aussi beaucoup de jeunes qui ont 16-17 ans. Une grosse problématique sur ces tranches d'âge, 16-17 ans, 16-18 ans, où je peux sortir de mon apprentissage, où je sors de mes études, mais j'ai envie de travailler. Sauf qu'en France, moins de 18 ans, on ne peut pas travailler.
On peut travailler à moins de 18 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans. 16-18 ans, vous avez raison. Entre 16 et 18 ans.
Un contrat d'apprentissage ou un...
Ou un non, on peut travailler aujourd'hui, on peut travailler avant 18 ans.
Mais pas comme un employé CDI, lambda.
Peut-être quelques nuances, mais grosso, là où vous avez raison, c'est vrai qu'on a une grosse difficulté, c'est sur la catégorie 16-18 ans, puisque jusqu'à 16 ans, on est à l'école, on a la scolarité obligatoire, et entre 16 et 18 ans, ben, on n'a rien. Et en plus on n'a pas accès aux minima sociaux d'une manière très claire, donc c'est pour ça qu'on met en place cette obligation de formation. Vous avez raison, c'est pour construire des solutions individualisées des jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, pas les laisser planter seuls devant leur télé, et les aider, les accompagner et leur trouver une solution. Voilà, et c'est la responsabilité des pouvoirs publics.
Merci à Vincent Raymond d'avoir donc pris le temps de nous accorder cette interview pour nous expliquer un petit peu de quoi il retourne. On va s'écouter un petit morceau de musique, et si on a encore un petit peu de temps, je vous dirai quel film aller voir demain, parce qu'il y a de très bons films qui sortent et aussi des trucs qui ont l'air un petit peu claqués au sol, mais on essaiera d'être gentil avec eux quand même. En attendant, on écoute Crystal Palace avec Plastic Doll sur le mix des cultures.
Thank you. interrompons pour quelques instants nos émissions afin de procéder à la synchronisation de nos réseaux.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Tais-toi, je réfléchis.
Je vais mettre la radio.
Ça marche?
Oui, dear.
99.
Il me reste approximativement une minute donc pour vous parler de cinéma, donc je ne vais garder que ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil durant mes petites recherches pour vous, chers auditeurs. Le film Queen and Slim avec Daniel Kaluuya, donc, que vous avez pu voir dans le film Get Out de Jordan Peele, qui est sorti, je crois, il y a quelques années déjà. Finalement, le temps file vite. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, c'est un jeune afro-américain qui a un date Tinder avec une jeune afro-américaine. Alors qu'il la ramène chez elle, un policier arrête son véhicule en l'accusant d'avoir oublié de mettre son clignotant. Le contrôle tourne mal et en protégeant la jeune femme, donc le jeune afro-américain, dont je n'ai pas retrouvé le prénom malheureusement, tue accidentellement le policier. Je le dis avec un ton rigolo, mais je vous assure que ça n'est pas drôle du tout. S'ensuit donc un emballement médiatique, une chasse à l'homme où les deux fugitifs deviennent malgré eux des symboles, des meurtriers et les victimes en même temps d'une injustice. Voilà, donc la bande-annonce, alors je sais que de prime abord comme ça, ça a un peu l'air d'être un film un petit peu facile sur les policiers sont des méchants, mais la bande-annonce m'a vraiment hypé comme rarement une bande-annonce m'a hypé. Les acteurs ont l'air excellents, mais en même temps Daniel Kaluuya, on le connaissait déjà pour ça, et même les doubleurs, ce qui est assez surprenant, font très très bien le travail. La réalisation a l'air assez travaillé. Bon, après, moi, je ne suis pas un expert comme ces messieurs que nous avons autour de la table, mais moi, en tout cas, la réalisation m'avait l'air très travaillée. Elle est vraiment belle et prenante. L'histoire a l'air donc de s'échapper des stéréotypes. S'il devait y avoir qu'un seul film, ce serait celui-là. J'avais prévu également de vous parler du film Sonic le film, mais je crois qu'on va s'en abstenir parce que je vous aime bien, chers auditeurs. Donc voilà, évidemment, donc ce film Queen and Slim, c'est pas le top du top pour les enfants, mais à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et puis, ce dont on n'a pas fini d'entendre parler, bien sûr, c'est des fameuses émissions qu'on va retrouver, puisque juste après cette émission, juste après le Blabla Mix de 18h à 19h, vous retrouvez Bouillabaz, donc l'ami Mosquito vous a préparé dans sa marmite tout un tas de vinyles qui sonnent bon pour une heure de super Bouillabaz, donc la rediff de Bouillabaz. Et puis ensuite chez nos amis de Principe Actif, vous retrouvez l'émission d'Amnesty International qui va certainement parler de toutes les thématiques qui intéressent Amnesty International, notamment la pauvreté, tout ça, tout ça. Voilà, il est 59, je vous dis salut à tous, chers amis, salut Anna, salut Yanis, salut Ousmane bien sûr.
Salut
Baptiste, salut Guillaume, salut à tous ceux qui sont derrière moi, j'ai nommé Mehdi et Gabriel, et bien sûr salut à vous chers auditeurs, et puis on se dit à jeudi donc dans le Blabla Mix.